RFI, il est 7h30 à Kinshasa, 6h30 en temps universel. Le journal avec Paul Lonsin-Spinelli.
Avec à la une de cette édition ce matin, une cérémonie symbolique à Abidjan au terme de laquelle les forces françaises vont rétrocéder le camp militaire de Port-Boué à la Côte d'Ivoire. Les garnisons ivoiriennes se sont déjà installées depuis plusieurs semaines pour transformer la base. Notre envoyée spéciale permanente Binta Diagne s'y est rendue pour RFI. C'était l'un des pères fondateurs du cinéma africain, Souleymane Cissé, est décédé hier à 84 ans. Le réalisateur malien était devenu le premier en Afrique noire à être primé au Festival de Cannes pour un long métrage. Et puis cette nouvelle réunion au Conseil de sécurité de l'ONU hier pour évoquer le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Kinshasa regrette qu'aucune décision n'ait été prise pour sanctionner des responsables rwandais à Kigali qui soutient le groupe armé du M23. C'est un passage de relais symbolique entre armées françaises et ivoiriennes. La France va officiellement rétrocéder le camp militaire de Port-Boué ce matin au terme d'une cérémonie à Abidjan. L'événement se déroulera en présence du ministre français des armées, Sébastien Lecornu, et de son homologue ivoirien, Tene Biraïma Ouattara. Cela s'inscrit dans un processus qui dure depuis près de 2 ans maintenant. L'heure approche donc pour des militaires ivoiriens qui ont déjà commencé à s'approprier le camp militaire depuis plusieurs semaines. Binta Diagne s'y est rendu pour assister aux dernières retouches.
Sur ce mur au niveau du poste de commandement était marqué « Force française en Côte d'Ivoire ». Ces écritures ont été retirées simplement et à la longue portera poste de commandement quand général de corps d'armée Ouattara Touba Dakin.
Sur la place d'armes, le lieutenant-colonel Roméo Kofi, commandant en second du 1er bataillon du génie de Boaké, supervise les derniers réglages logistiques. Depuis plusieurs semaines, ces hommes repeignent les miradors, construisent un nouveau portique. Les militaires ivoiriens prennent leur marque dans ce camp de 230 hectares. Au poste radio, le capitaine Gauthier de l'armée de l'air française est entouré de 3 opérateurs ivoiriens.
Cet écran, c'est la visualisation radar de l'ensemble des avions qui transitent dans la zone, donc à la fois la Côte d'Ivoire mais également toute la sous-région.
Ce responsable militaire transmet ses connaissances aux opérateurs radio ivoiriens.
Nous entamons une démarche de partage de connaissances dans le but à terme d'être interopérable sur ce domaine radio.
Le 16 avril 2023, une commission mixte est créée pour entamer les discussions sur le transfert du camp de Port-Boué et sur l'évolution de la coopération militaire. L'accent est mis sur la formation ainsi que sur les exercices en commun, comme l'explique le colonel Hiver qui commande le détachement interarmé de Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, le cœur de notre coopération, c'est des entraînements en commun. Tout le monde apporte à tout le monde parce que c'est des occasions d'entraînement qu'on ne trouve pas ailleurs.
Après les discours officiels, les 2 ministres de la Défense procéderont aujourd'hui à la signature de conventions au sujet de la coopération militaire entre les 2 pays. Binta Diagne, Abidjan. RFI.
Le cinéma africain a perdu hier l'une de ses plus célèbres figures, Souleymane Cissé, s'est éteint à Bamako à l'âge de 84 ans. Le réalisateur malien devait présider le jury long métrage du festival burkinabé Fespaco qui s'ouvre ce samedi à Ouagadougou. Il restera comme le premier cinéaste d'Afrique noire primé à Cannes pour un long métrage. Yélène Lalumière avait décroché en effet le prix du jury en 1987, un long métrage dans lequel un jeune homme issu d'une illustre famille Bambara va recevoir les connaissances mystiques de cette ethnie. Souleymane Cissé s'était rendu plusieurs fois au festival dans le sud de la France. C'est l'une des images que gardera de lui le réalisateur tchadien Mahamat Salé Haroun.
Je garde en souvenir Cissé sur la croisette, cette icône en fait, cette image iconique de Cissé dans son grand boubou blanc. On pouvait le reconnaître entre des centaines de milliers de personnes. Et ça, c'est l'image que je garde de lui. D'ailleurs, Cannes ne s'est pas trompé parce que quand il y a eu à un moment donné, je sais plus quel anniversaire du Festival de Cannes, il y avait Cissé, c'était le seul qui représentait l'Afrique et il était dans ce boubou blanc, on dirait un ange dans cette foule sur la croisette. Et je pouvais le repérer à 1000 lieues. Et ça, c'est l'image que je garde de lui. Comme quelqu'un de pur, en fait, et de d'angélique. Moi, j'adorais son rire et son sourire parce que à chaque fois que je le rencontrais, c'était ça d'abord, quoi. Cette espèce de luminosité qu'il avait dans les yeux. Et ça, je pense que c'est la passion non seulement du cinéma, mais de la vie. C'était quelqu'un de très positif.
Le cinéaste tchadien Mahamat Salé Haroun, interrogé par Edmond Sadaka. Une réunion de 3 heures sans véritables avancées au Conseil de sécurité de l'ONU, l'instance des Nations Unies. C'est une nouvelle fois réunie en urgence hier pour discuter de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. La RDC continue de réclamer des sanctions contre le groupe armé du M23 et le Rwanda qu'il soutient. Mais Kinshasa a dû constater qu'aucune décision notable n'avait été prise. Loubna Anaki.
Ce Conseil qui observe, ce Conseil qui condamne, mais ce Conseil qui n'agit pas.
Devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, la ministre des Affaires étrangères congolaise ne mâche pas ses mots. Thérèse Kayikwamba-Wagner critique l'absence d'une résolution claire pour mettre fin aux violences en République démocratique du Congo. Elle réclame, je cite, « l'adoption de sanctions contre les responsables politiques et militaires rwandais impliqués dans cette agression, un embargo sur les exportations de ressources naturelles en provenance du Rwanda, ainsi que l'arrêt des combats et le retrait des troupes rwandaises ».
Le temps des débats théoriques est terminé. Il est temps de faire respecter les principes qui définissent cette institution. Paix, sécurité et respect du droit international. Le droit international qui s'applique à tous. Rester silencieux pendant que des civils sont tués n'est pas une solution.
Face à elle, les membres du Conseil ont reconnu l'urgence de la situation et ont une nouvelle fois dénoncé les agissements des rebelles du M23 et l'implication du Rwanda. L'ambassadeur français a évoqué un projet de résolution en discussion, mais pour le moment, aucun texte ne semble bénéficier d'un soutien suffisant pour être soumis au vote ou être adopté. Loubna Anaki, New York, RFI.
Une enquête de 48 pages pour détailler la répression dans les États du Sahel. La FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains, et l'OMCT, l'Organisation mondiale contre la torture, publient aujourd'hui un rapport dénonçant la convergence régionale de diverses pratiques violentes. Les deux organisations se sont penchées sur le sort des représentants de la société civile au Mali, au Niger, au Burkina Faso et au Tchad. Il en ressort de nombreux cas de harcèlement, voire d'attaques ciblées qui visent les défenseurs des droits humains et autres voix discordantes, David Bachet.
Les noms des victimes, les cas minutieusement décrits, mériteraient tous d'être restitués dans le détail. La liste est malheureusement bien trop longue. Pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2024, au Mali, au Burkina, au Niger et au Tchad, le rapport recense 11 cas de disparition forcée, de torture, 14 cas d'arrestation, détentions arbitraires et harcèlement judiciaire, 8 cas de menaces, intimidations, 11 cas d'attaques contre des journalistes et atteintes à la liberté d'expression, 9 cas d'atteinte à la liberté d'association et 8 cas d'atteinte à la liberté de manifestation. Total, 61 cas au moins, précisent la FIDH et l'OMCT, qui savent leur travail tristement non exhaustif. Le rapport pointe l'utilisation abusive de certaines lois, avec notamment le recours au chef d'accusation flou d'atteinte au crédit de l'État au Mali pour emprisonner les voix discordantes, ou le décret sur la mobilisation générale au Burkina pour justifier des enrôlements forcés d'opposants politiques. Dans un contexte d'impunité, les deux ONG appellent Bamako, Niamey, Ouagadougou et N'Djamena à libérer l'ensemble des défenseurs des droits humains arbitrairement détenus et à mettre fin à toute forme de violation des droits fondamentaux.
Précision de David Bachet, les détails sur ce rapport sont à retrouver sur RFI.fr. En Guinée aussi, la liste des opposants arrêtés s'allonge. Hier matin, Abdoul Sakho a été interpellé par des hommes encagoulés à son domicile en banlieue de Conakry. Selon sa famille et son avocat, Abdoul Sakho, qui est l'un des responsables des forces vives de Guinée, cette coalition des principaux partis de syndicats et d'organisations non gouvernementales réclament un retour des civils au pouvoir dans le pays dirigé par des militaires depuis fin 2021. Le récit de l'arrestation avec Mouktar Ba.
Un nombre indéterminé d'hommes en uniforme et encagoulés, selon sa famille, ont tenté de forcer la porte d'entrée sans y parvenir. Un petit groupe a finalement réussi à défoncer le plafond par la terrasse pour cueillir l'activiste Abdoul Sakho. Son épouse Oumou Bari, encore sous le choc, raconte.
Le monsieur m'a marié, madame, ouvrez la porte. Il dit, ouvrez la porte, vous allez nous tuer. J'ai refusé. Ils ont tout fait avec la porte, là, ils n'ont pas pu ouvrir. Ils ont défoncé le plafond, ils sont rentrés, ils sont descendus. Il n'y avait pas où sortir. Sakho, les kidnappeurs ont dit, on ne vous avait pas dit d'ouvrir la porte. Il a dit, ah, moi je priais. On lui a giflé, on lui a jeté par terre et puis on lui a attaché, on lui a envoyé. Ils ont demandé les téléphones, ils sont partis. Ils étaient tous cagoulés. Ils avaient des pistolets, des fusils.
Les défenseurs des droits de l'homme, sans nouvelles de l'activiste, sont vent debout, dénoncent cet enlèvement et exigent sa libération.
Ibrahim Balaya Diallo.
Nous dénonçons avec la plus grande fermeté cette disparition forcée et exigeons la libération immédiate et sans condition d'Abdoul Sako, des explications claires des autorités sur les circonstances de son enlèvement et de son lieu de détention. La fin des actes d'intimidation et de harcèlement contre les militants de la société civile en Guinée.
Après les leaders du FNDC, Funiki Mangé et Biloba, l'économiste Sadou Nimaga et le journaliste Marwan Camara, Abdoul Sako figure désormais sur la liste des personnes kidnappées dont on est sans nouvelles. Mokhtarba Conakry, RFI.
Son poème l'a conduit derrière les barreaux au Togo. On vous en parlait dès hier sur RFI. L'activiste Afexio est retourné en prison hier après son audition devant le juge d'instruction de la cour d'appel. Interpellé le 12 janvier dernier, il a été incarcéré à la prison civile de Lomé 48 heures après avoir publié sur les réseaux sociaux un poème intitulé « Fait à part ». L'artiste est poursuivi pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, Peter Sassou Dogbé.
Honoré Sitiopé Sokbor, alias Afexio, est arrivé à la cour d'appel de Lomé peu avant 8h30, menottes au poignet, et a été directement conduit dans le couloir numéro 3 où se trouve la salle d'instruction. L'audience n'est pas publique, c'est comme à l'instruction nous confie un avocat. Les juges doivent examiner l'appel interjeté par ses conseils en vue de sa libération. Afexio est poursuivi pour avoir publié un poème sur les réseaux sociaux intitulé « Fait à part » dans lequel il dénonce l'arbitraire, l'oppression et ajoute « Indignez-vous ». La phrase, qui est interprétée comme un appel à l'insurrection, à la révolte contre les institutions du pays. L'incarcération de Afexio a provoqué un grand émoi dans l'opinion et suscité auprès des acteurs politiques et des organisations des droits de l'homme des questionnements sur le respect de la liberté d'expression au Togo. Hier, parents, amis et acteurs des droits de l'homme, venus en grand nombre le soutenir, sont retournés chez eux, déçus et tristes. Afexio est ramené en prison. Le délibéré est attendu dans 8 jours. Peter Sassou Dogbé, Lomé, RFI.
Un sport très populaire, mais entaché par une violence sourde au Sénégal. Dimanche dernier, un supporter est décédé en marge d'un match de lutte. La police nationale a donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre la gestion de la sécurité des combats. La Commission nationale des droits de l'homme, elle, souhaite même aller plus loin. L'instance veut suspendre provisoirement les combats de lutte, et ce, le temps de prendre des mesures pour endiguer les violences, alors que de nombreux galas sont programmés dans les prochains jours. Léa-Lisa Vesterhoff.
À l'origine des problèmes, la survente de billets pour assister au combat de lutte dimanche dernier à l'arène nationale. D'une capacité maximale de 25 000 personnes, c'est lorsque la police a interdit les spectateurs en surnombre d'entrées que la violence a éclaté, avec des actes de vandalisme et des dégradations, et plus tard dans la soirée, l'agression mortelle d'un jeune à quelques kilomètres de l'arène, dans la banlieue dakaroise. Après la décision de la police de ne plus assurer la sécurité et de suspendre les combats à venir, le comité de gestion de la lutte s'est immédiatement réuni ce mercredi. Proposition a été faite de créer une commission chargée de vérifier la billetterie et de limiter la vente à 22 000 tickets maximum. Idem pour les horaires. Avancé à 16h30 pour le premier combat, le dernier devra se terminer à 19h maximum, assure le comité de gestion qui a remis un document au ministère de l'Intérieur. L'objectif, que les autorités reviennent sur leurs décisions et autorisent les derniers combats programmés avant la pause du Ramadan. Les enjeux financiers sont importants pour les organisateurs de ces combats de lutte très populaires, mais également pour les lutteurs eux-mêmes et toute l'économie informelle qui gravite autour de ce sport national. Des rencontres sont programmées presque chaque jour jusqu'à mercredi prochain. Léa-Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité africaine dans un tout petit peu plus de 3 quarts d'heure d'ici là. L'actualité d'RFI est à retrouver sur notre site rfi.fr. Je passe la main à Marion Cazanov pour la suite d'RFI Matin.
Merci Paul Lonsin-Spinelli.